Bienvenue sur HTP Radio.
Hiver à Haute-Pierre.
Écoute, c'est pas quoi faire. Il fait froid.
Haute-Pierre, c'est l'hiver.
Écoute, HTP Radio.
HTP Zoo.
On change le climat, on passe du froid au chaud.
HTP Création.
Vas-y, c'est quoi?
Arrête de m'embrouiller.
HTP.
T'as capté le délire?
C'est chelou, hein.
Jour 3 de la Winter School du Cresson à l'école d'architecture de Grenoble. Journée très 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 intense, très très remplie, avec un matin très théorique, beaucoup de discussions et d'échanges, notamment autour de la conférence de Salima Nadji, qui est architecte et aussi chercheuse en anthropologie à l'EHESS, il me semble, qui a parlé de résonance oasienne et de paléo-innovation. Journal de bord sonore. Je m'appelle Louis Mouroy-Villa et je me suis rendu à cette école d'hiver du Cresson. Personnage très intrigant, à la fois très bourgeois, à la française, corporatiste, farouchement architecte, avec des grandes phrases comme « c'est notre métier », et en même temps avec un côté très fier de sa culture arabe, absolument bilingue en arabe, et du coup un aspect très biculturel chez Salima Nadji. J'ai trouvé très attachante, quoique très mystérieuse, très, très réservée aussi. Ça parlait d'un projet très très complexe, très très touffu, qui serait très dur de vous restituer en deux secondes. Un projet d'aménagement et de préservation d'une source à Tiznit, il me semble, pour garder la mémoire de cette source et aussi la rendre plus accessible aux personnes vulnérables et fragiles de la ville, et des réflexions aussi autour de ce que c'est qu'un oasis en termes sonores, et ce que c'est qu'une médina aussi, donc si je dis pas n'importe quoi, le centre-ville du bâti, de la cité qui entoure l'oasis. Alors il faut savoir que cette médina, elle est très fortement hiérarchisée, jalonnée, structurée en porches successives qui s'emboîtent les uns dans les autres, avec des ruelles qui sont tantôt couvertes, tantôt découvertes, et qui vont quand même chercher à préserver de la chaleur. Et ces porches vont marquer des intimités plus ou moins intenses et de la familiarité plus ou moins intense au fur et à mesure que les porches sont franchies. Il y a des dialogues aussi entre chaleur et fraîcheur, entre lumière et obscurité, évidemment. Et donc il y a une articulation entre les lieux publics et privés, entre ces lieux qui cheminent au sein de la médina et ces lieux qui nous emmènent dans l'intimité des familles, qui sont en fait les impasses, le bout des ruelles de la médina. Et il y avait des réflexions sonores aussi sur cet emboîtement et sur comment le son se propageait dans ces lieux-là. Il y a une phrase très intéressante que j'ai entendue qui disait « Toute architecture collective est ambiguë parce qu'elle est le symbole de la domination d'une élite, parce qu'elle est transclasse. Une architecture collective, elle n'appartient en propre à personne, même si elle était construite par sans doute des personnes qui en avaient les moyens. Et cela donne donc des volontés, ces architectures collectives, d'appropriation par ces élites ou par des personnes qui ne sont pas de ces élites, ou de destruction. Dans tous les cas, il s'agit de récupérer ces architectures collectives, ces communs. Et donc la source notamment, et les aménagements faits autour de la source, ou les aménagements très anciens qui en fait sont des héritages du passé qui deviennent ou qui peuvent devenir une chose commune, sont ambigus et peuvent être le lieu de lutte pour qu'on les récupère. Ensuite, il y a eu David Guéry et Marc Breviglieri. David Guéry qui doit être chercheur en architecture ou architecte tout court, et Marc Breviglieri qui est anthropologue et globalement anthropologue, oui. Alors David Guéry a commencé avec une grande prestance, une grosse brute, gros coffre qui résonne dans toute la salle, quasiment pas besoin de micro, avec une manière d'occuper l'espace sonore vraiment impressionnante. Il a tout de suite parlé de choses très très politiques en mettant les pieds dans le plat et en évoquant notamment les dispositifs de la fragmentation de la recherche, qui est pour lui le résultat d'un découpage en petites opérations techniques d'une recherche qui se divise et qui devrait se diviser en spécialités et en spécialistes. Pour lui, le résultat, c'est un taylorisme de la recherche, c'est-à-dire une division très précise en mini-tâches du travail global de recherche, du cheminement, comme il le dit. Et en fait, vous allez où vous voulez, vous vérifiez vos propres hypothèses sans laisser le champ libre à des recherches réelles et sans laisser la porte ouverte aussi à des surprises. Et pour lui, c'est un appauvrissement du processus de recherche. C'est une sorte de point méthode qu'il a évoqué d'emblée en commençant sa conférence. Et pour lui, ça transforme les chercheurs en ingénieurs et en calculateurs. Donc le calcul est évoqué pour légitimer des réflexions qui sont amenées, qui vont légitimer la recherche. Mais le repère de ce calcul n'est jamais questionné. Et pour lui, pour David Gurry, c'est le repère de calcul qui est en jeu dans cette manière de rechercher des vérités est un repère de calcul extractiviste, celui de la destruction du monde. C'est les mots qu'il a employés. Et donc c'était une intervention assez forte et très très directement, d'emblée, très politique, très impactante. Pour lui, donc, il manque le cheminement dans une situation où on a une posture d'hospitalité. Donc avec cette idée d'avoir une équipe hôte et une hospitalité pour des chercheurs d'horizons très différents. Parce que pour lui, on ne se comporte pas pareil dans les régimes d'hospitalité que dans les régimes pseudo-scientifiques de neutralité axiologique qui sont pour lui hors sol. Ce qui rappelle pour lui sa nécessité d'être ancré, d'être situé. Il avait une façon d'amener cette notion d'hors sol beaucoup plus intelligente et très très pertinente, je ne me rappelle plus malheureusement. Et il évoque le fait que dans ce projet de réaménagement, de construction architecturale dans la Médina, ils avaient convoqué un consortium de recherche avec un critère: comment être bienveillant dans un régime de compétition néolibérale de la recherche qu'on connaît aujourd'hui, où les chercheurs sont mis en compétition et en permanence ils doivent produire des choses pour se démarquer, se distinguer. Et il ne s'agissait pas non plus pour lui, dans ce travail en consortium, en collectif, de communiquer classiquement, académiquement, mais il s'agissait aussi de communiquer de manière artistique. Il y avait deux séminaires, celui de Tiznit et de Nefta, qui se répartissaient en fonction des personnes. Un carnet de recherche était tenu en ligne sur la plateforme Hypothèse, qui est une plateforme qui est mise à disposition des chercheurs et des chercheuses pour coécrire et pour aborder cette question de la mémoire et de la réhabilitation de la source historique de Tiznit, il me semble. Et donc ce lien sera mis dans la description, ce lien du carnet de recherche Zerka. L'autre chose importante dans ce processus de recherche, avec ce consortium, avec cette appétence artistique, avec cette idée d'avoir une posture d'hospitalité entre chercheurs et chercheuses, c'était d'orchestrer la disparition du leader. Et donc de réfléchir à comment la personne qui impulse ce projet, qui a le pouvoir, au sens de que c'est la personne qui a notamment les fonds nécessaires à financer la recherche, cette personne s'efface pour laisser place à des démarches, des pistes de recherche qui peuvent prendre plus ou moins d'ampleur et du coup essayer d'inverser des rapports de force trop figés. Ensuite, il y a eu l'idée de basculer de ce carnet de recherche hypothèse en ligne Zerka à la plateforme Cartophonie pour archiver des sons et vraiment faire ce travail d'analyse des résonances oasiennes et de chercher par le son à enquêter sur ce territoire où les projets architecturaux prenaient forme. Il a évoqué que l'oasis était un lieu autre, une hétérotopie construite de toutes parts par le monde colonial, puisque au cœur de l'ancien monde, d'avant les routes maritimes du XVIe siècle, les oasis étaient des lieux très très puissants. Et donc pour les empires coloniaux qui les ont conquis, avec beaucoup beaucoup de difficultés, ça a été comme une revanche sur ces lieux de résistance du partage colonial du monde. Notamment en asservissant ces lieux-là au tourisme, c'était ce qui était évoqué. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses dans ce carnet de notes d'aujourd'hui. Ce qui a été évoqué dans l'Oasis, qui est quelque chose de hyper intéressant et qui me rappelle beaucoup de choses à Horizom, le collectif où je travaille, c'est la consubstantialité entre ville et agriculture dans l'Oasis. Le fumier animal et humain régénère la terre, mais aujourd'hui il y a un nouvel ordre qui s'instaure puisque des matériaux exogènes sont apportés, comme le béton, avec des régimes de corruption qui sont inhérents aux matériaux et aussi aux personnes et aux structures qui amènent ces matériaux. C'est-à-dire que pour David Gurry, si je dis pas n'importe quoi, Gurry, oui, le béton c'est la corruption des matériaux puisqu'on quitte le domaine des ressources qui sont in situ, qui sont cherchées là et ici et maintenant, pour aller du côté de ces matériaux qui vont permettre de calquer des architectures de manière standardisée sans réfléchir à la pertinence de ces architectures dans ce monde-là, dans ces conditions-là, dans ces circonstances-là. Et c'est aussi la corruption institutionnelle, le béton pour lui, puisqu'on peut trafiquer les dosages. Et pour faire ça, ce sont les ingénieurs et les architectes qui sont complices de ces choses-là. C'est du moins ce qu'il disait. On peut trafiquer les dosages du béton et du coup en faire un matériau corrompu, et du coup en faire un matériau qui ne va pas tenir dans le temps, ce qui va donner lieu à des édifices qui ont un vieillissement déplorable. Alors qu'en terre, on ne peut pas tricher avec les dosages, puisque sinon le matériau n'est pas consistant, ne tient pas. Donc il y avait un décalage systématiquement entre... En tout cas, il produisait derrière ses réflexions et ses considérations architecturales et analytiques, il produisait derrière un discours politique qui était hyper intéressant, hyper fort. Dans cette idée de revenir à une approche multisensorielle dans la recherche et pas seulement d'une analyse par le voir qui est très classique dans l'architecture occidentale, qui remonte à Lablache et un géographe dont le manuel éduquait à l'image, l'idée était de quitter cette éducation à l'image, car trop voir rend aveugle, s'émanciper du regard pour revenir au multisensoriel et au sonore, pour comprendre le souffle. Dans la réflexion philosophique, la pensée est la projection du moi dans l'univers, comme la vue, la projection du moi dans l'univers en Occident. On participe à un tout, mais par le multisensoriel, on participe à un tout autrement, on participe au souffle, par la porosité, par les seuils justement. Enregistrer la porosité du son, enregistrer le son qui se propage, qui subit des effets sonores tels que ces effets sonores sont décrits et répertoriés dans le laboratoire du Cresson de l'école d'architecture de Grenoble. En répertoriant toutes ces choses-là, en les analysant dans ces espaces de la Médina, on peut faire une partition sonore de la marche et on peut réfléchir à comment à ce que représentait ce qu'a pu invoquer de manière historique et peut-être ancestrale, ce qu'a pu être le rapport à ces lieux qui n'étaient pas du tout des lieux qu'on observait comme en Occident. Peut-être qu'on les vivait par le souffle et par ce rapport poreux. En tout cas, c'est ce qui a été dit dans la conférence à un moment, j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, il y a une petite intervention d'un artiste vidéaste qui s'appelle Laurent Valdès. Qui a fait toute une... qui a amorcé toute une piste de recherche sur les phonomatopées, mélange entre les phonèmes et les onomatopées. L'idée était de transcrire les bruits de la ville principaux et de les transformer en onomatopées qui pouvaient s'assimiler à toutes les langues des différentes chercheuses. C'est-à-dire que, par exemple, pour représenter l'herbe, on dirait que le bruit, ce serait GRSSS, SRSSS, ce qui fait grss. Et pour la terre, un autre bruit, etc. Pour les enfants, pour le jeu de dames, pour le bruit de pas, pour le bruit des voitures, à chaque fois, donner une onomatopée, pour être à même ensuite de rédiger une partition sonore qui pourrait restituer une après-midi du 12 juin 1992. Voilà. Cette idée de composer avec le sonore et de proposer un répertoire des lieux sur la base de la reformulation dans des onomatopées qui sont au carrefour de différentes langues. Il y a aussi eu la formule tendresse mémorielle que j'ai trouvée très intéressante, qui est une autre piste du projet Zarka sur lequel, Zerka, pardon, sur lequel je vais me renseigner. J'aimais beaucoup l'idée d'associer une émotion à l'idée de mémoire, parce que des fois, on a l'analyse, l'idée de mémoire, où on décrit, on fait un projet artistique autour de la notion de mémoire, ce qui est fait et archi-fait, mais la mémoire devient une entité un peu creuse, un peu froide et beaucoup trop abstraite. Une entité qu'on traverse, en fait, on parle de mémoire, mais on parle de mille choses en même temps, alors que là, cette idée de dire que par la mémoire, en fait, on effectue une sorte d'acte d'allégeance, une sorte de rite... De reconnaissance et de don de tendresse, ça m'intéressait davantage. Et du coup, il y a eu une branche dans ce projet Zerka et oasien, de résonance oasienne, une piste sur cette mémoire bien spécifique de la tendresse. Ensuite a été évoquée l'idée que, que dans l'oasis, il y avait une floraison de strates relationnelles mise à l'épreuve à chaque fois par l'usage habitant. La source est associée dans l'oasis à un mythe fondateur. Le mythe fabrique un espace sensible, une réserve de sens qui parle de l'existence. Il y a donc un arrière-plan cosmologique. Dans le cadre de cette civilisation multiséculaire très composite, comment accéder, en tant qu'anthropologue, en tant que chercheur, chercheuse, en tant que personne qui réalise un projet architectural, comment accéder à cette réserve de sens, cette sorte de voûte ambientale des espaces oasiens? Là, on écoute les propos de Marc Brevigliari, si je n'écorche pas son nom. On vérifie. Marc Brevigliari, effectivement, anthropologue qui a participé à ce consortium du coup, de recherche et qui a accompagné le gros projet de Salima Nagy au Maroc. Du coup, Marc Brevigliari qui a produit à la fois un travail de traduction de la langue berbère, il me semble. Pour essayer de comprendre des enjeux ethnologiques qui peuvent se placer dans la langue berbère et des manières de formuler le monde, de le concevoir, de le nommer. Et de l'autre côté, un film pour rendre compte de gestes, de techniques de cueillette, de manières de chanter aussi. Et il a du coup co-réalisé un film qui s'appelle Fertilité ou le chant des mains. Qui est un très beau film avec un travail sonore assez incroyable aussi, qui a été fait par une artiste dont je n'ai pas noté le nom, une artiste russe, il me semble. Les chants en question s'appellent les Tangift, Tangift, chants d'espérance des cueilleuses au Maroc, en tout cas dans la région où était le projet. Et donc ça, c'était toute la partie. La partie théorique de cette rencontre ce matin que j'ai essayé de décrire aussi bien que je peux, qui était un moment très 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 dense, très très touffu, avec des interventions multiples et à chaque fois très spécifiques, très très singulières, mais toutes reliées autour de la figure de Salima Nagy et ce projet Résonance oasienne. Et donc ça prenait place dans le cadre de la sortie du livre Architecture du bien commun de Salima Nagy pour une éthique de la préservation. Ce livre que je recommande vraiment, vraiment, qui est très intéressant sur cette configuration tellement particulière géographiquement, socialement parlant, architecturalement parlant de l'Oasis. Et ensuite, on a pu visiter la petite exposition qui se tient dans l'école d'architecture de Grenoble, co-organisée par le Cresson, avec une installation sonore, évidemment, et des grands panneaux qui présentent différentes pistes de ce travail de recherche et de ce travail architectural. J'ai ensuite parlé avec David Guéry, qui est vraiment passionnant, qui est complètement possédé par ces questions d'architecture, de pertinence de l'architecture et de profondeur politique en fait, dans les implications architecturales. Et on a parlé de radio, de podcast, de qu'est-ce qui se joue dans la parole, qu'est-ce qui se joue dans les projets participatifs, qui des fois, le participatif en fait est une manière de disqualifier d'emblée la possibilité de participer ou de faire de manière horizontale. Hein. On a parlé de plein de choses. Et ensuite, du coup, il y a eu un après-midi dans la poursuite de notre travail des derniers jours, où on était dans cette place de l'abbaye, cette place du marché de l'abbaye, à faire des entretiens. Pour essayer d'obtenir l'avis des personnes qui traversent les lieux qu'on étudie concernant le rapport au son. Et donc on a eu deux entretiens assez bons et les autres camarades faisaient des études. Ils sont en train d'enregistrer sur à peu près 5 minutes 11 points d'un tracé dans la place du marché jusqu'à des immeubles un peu plus vieux qui ont une cour intérieure très intéressante et très calme, où il se passe vraiment des choses du point de vue sonore parce que ça fait comme un effet de filtre et de coupure, comme une sorte de microcosme dans cette cour de vieil immeuble ouvrier des années 1920. Et du coup, l'idée est d'avoir un relevé sur 11 points à différents moments de la journée avec plusieurs micros pour essayer de faire des comparatifs avec un micro témoin et un micro qui varie. Sur ces enregistrements et sur ce rapport au son dans ces espaces. On a beaucoup discuté avec les personnes du café associatif La Pirogue. Une dame, Hélène, d'un âge assez avancé, nous a raconté toutes les activités de la pirogue. Ça a été assez passionnant. Elle avait l'air super impliquée. Et on a fait son entretien concernant les sons de la place et des lieux. Et la même chose pour Joséphine, qui est serveuse salariée de la pirogue et qui nous a accueillis avec beaucoup, beaucoup de générosité durant cet après-midi. Voilà un peu la journée qui a été, qui n'a pas cessé d'être intense et pleine de rebondissements. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain pour l'avant-dernière journée de cette Winter School, de cette école d'hiver du Cresson dans l'école d'architecture. Je ne vais pas confondre avec l'école d'art. Du Cresson à Grenoble. Bonne soirée!
HTP Radio, c'est fini.
Tchuss!
Tu peux nous retrouver sur htpradio.org.
Gueule chéreuse. HTP Zoo.
Création.
Allez, ciao, HTP.
À plus dans le bus.
HTP. C'est chelou.
Salut, ciao, HTP!